Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Un des plus grands noms du cinéma, Steven Spielberg, sera de retour mercredi en salle avec le film Pentagon Papers. Stéphane Boutsock a rencontré le réalisateur ainsi que son acteur Tom Hanks. On les écoute dans un tout petit instant. L'excellente série française Baron Noir est de retour ce soir à 21h sur Canal+, pour une deuxième saison. L'acteur principal, Kad Merad, s'est confié à Isabelle Morini-Bosque. L'humoriste et comédien Vincent de Dienne triomphe chaque soir au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris dans le classique de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. Ce sera le coup de cœur de Monique Younes. Olivia Leray a préparé pour nous ses express du jour. Et enfin, Charlotte Latour nous fera découvrir une comédie musicale un peu oubliée, Wonderful Town, créée dans les années 50 par le compositeur Leonard Bernstein. Le spectacle sera à l'affiche de l'Opéra de Toulon à partir de vendredi.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Un film de Steven Spielberg est toujours un événement. Et cet hiver, le cinéaste américain nous en proposera deux. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Il y aura donc Ready Player One au rayon science-fiction en mars. Et mercredi, c'est le Spielberg citoyen qui sera à l'affiche avec Pentagon Papers.
Oui, après Lincoln, La couleur pourpre, Amistad, Le pont des espions ou Cheval de guerre, le cinéaste continue de tourner ses caméras vers les démons de l'Amérique. Ces travers qui ont jalonné son histoire, la faisant tantôt pencher vers l'abîme ou garder fièrement la tête haute. Pentagon Papers raconte une histoire vraie, celle du combat du journal Le Washington Post contre le président Nixon en 1971 lors de la publication d'un rapport qui démontrait que ses prédécesseurs à la Maison-Blanche avaient délibérément menti au peuple sur l'utilité de la guerre au Vietnam et donc sciemment jeté vers l'enfer des centaines de milliers de jeunes soldats. Film politique et féministe, Pentagon Papers montre comment la patronne du quotidien, Katharine Graham, jouée par Meryl Streep, et son rédacteur en chef, Ben Bradley, incarné lui par Tom Hanks, avaient tenu bon face à la tourmente. Une intrigue qui sonne incroyablement moderne à l'heure de l'offensive du président Trump contre la presse en général, Steven Spielberg.
J'ai beaucoup de chance que ce scénario ait été écrit dans cette période-là, au moment où Hillary Clinton était annoncée comme la gagnante de l'élection présidentielle. Moi, j'ai lu le script après le scrutin en février 2017 et ma première réaction a été de dire « Je veux faire ce film immédiatement ». J'étais alors en plein milieu d'un autre film, Ready Player One, dont nous parlerons dans 2 mois, ce qui est assez dingue. Tom a lu en même temps que moi, puis Meryl, et nous avons tous décidé d'unir nos forces pour le faire.
Ça veut dire, Stéphane, que Spielberg compare Trump à Nixon ?
Eh bien, figurez-vous que non. Et le cinéaste, qui est un militant démocrate de la première heure, fait même l'éloge a posteriori de Richard Nixon en refusant les comparaisons hâtives.
Non, il n'y a aucun point commun, et je dis ça sérieusement. Richard Nixon a fait de grandes choses, et on peut les qualifier avec le recul de progressistes. Mais Nixon était aussi un paranoïaque, qui s'est lui-même attiré des problèmes, comme par exemple de s'attaquer sans raison au New York Times, puis de déclarer la guerre au Washington Post. L'affaire des Pentagon Papers concernait les administrations Johnson, Kennedy, Eisenhower et Truman. C'est Nixon qui s'est mis dans le pétrin en attaquant la presse. En fait, la seule similarité à laquelle j'ai prêté attention, c'est que la nouvelle guerre contre les médias, orchestrée par l'administration actuelle, est 10 fois plus puissante que celle intentée par Nixon. À l'époque, il y avait 3 chaînes de télé et 1 journal par ville, c'est tout. Aujourd'hui, il y a des centaines d'organes de presse.
Alors Stéphane, reste néanmoins un vrai point commun pour le coup, l'art de la dissimulation, parce que la presse américaine a répertorié des centaines de mensonges flagrants dans les propos du président Trump depuis son élection, et on ne peut pas dire que Richard Nixon ait dit toute la vérité durant son mandat.
Non, on ne peut pas dire, non. Le film se termine d'ailleurs sur l'autre grand scandale révélé par le Washington Post, celui du Watergate, qui avait obligé Nixon à démissionner en 1974. Pour Tom Hanks, qui joue donc le rédacteur en chef obstiné, a publié le rapport accablant des Pentagon Papers. Cette affaire a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis.
Nous n'avions pas encore réalisé avant 1971 à quel point nos dirigeants nous mentaient. Moi, quand j'étais gamin, jamais je n'aurais imaginé que des types comme Kennedy ou Lyndon Johnson pouvaient délibérément le faire. En regardant le peuple américain droit dans les yeux sur un sujet aussi important que le fait d'envoyer notre jeunesse tuer et se faire tuer dans une guerre. C'était impossible impossible à envisager. Le gouvernement était là pour améliorer le pays et certainement pas pour dissimuler ou sauver la face. On croyait qu'ils ne voulaient que le progrès.
Constat amer, lucide, qui vaut aussi pour un autre scandale que dénonce le film et qui là aussi résonne assez incroyablement, la place des femmes dans la société. Katharine Graham, la propriétaire du Washington Post, en avait en fait hérité de son mari décédé. Elle était considérée, allez, on va dire, comme une gentille rentière par ses actionnaires qui ne lui reconnaissaient aucune autorité. Cette affaire l'a révélée et a fait avancer les mentalités, en tous les cas, commencé à les faire avancer. C'était il y a 50 ans. Écoutez Steven Spielberg.
This is only a story history could have written.
C'est un récit que seule l'histoire peut avoir écrit. Un film à propos d'une femme qui se révèle à elle-même, fait entendre sa voix, s'attaque au modèle que les hommes ont dessiné et dans lequel ils l'ont enfermée en 1971. C'est une décision qui a fracassé une porte et ouvert le passage à tellement de femmes après elle. J'espère que chacun de mes films est un hommage aux femmes, et aux hommes d'ailleurs. Mais celui-ci montre ce qu'était la vie d'une femme en 71. Nous avons clairement fait du chemin depuis, mais ce que nous vivons actuellement est une autre révolution féminine, pour notre pays et pour le reste du monde, car elle pointe la responsabilité des hommes en leur demandant de s'interroger sur leur comportement vis-à-vis des femmes. Ça ne faisait pas la une quand on a fait le film. J'étais dans la salle de montage en train de finir le film quand le second mouvement de cette grande symphonie a résonné.
Référence évidemment à l'affaire Weinstein, à la révolte des femmes dans le monde entier, révolte qui continue d'ailleurs, on l'a vu ce week-end aux États-Unis. C'est vous dire si Pentagon Papers est un film important, qui plus est, alors là, magistralement réalisé par Steven Spielberg, qui a retrouvé quasiment le grain de films comme Les Hommes du Président, c'est vraiment impressionnant. Meryl Streep et Tom Hanks sont à l'unisson. Le film donc sort mercredi. Ce sera l'un des favoris pour les Oscars du 4 mars. On attend les nominations demain après-midi.
Je suis impatient. Alors nous vous offrons ce matin des places pour aller vous aussi découvrir le film de Steven Spielberg. Il faut pour cela répondre à la question que vous pose Stéphane.
Quel est le nom du journal qui a publié l'affaire des Pentagon Papers ?
Réponse au 3210. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Olivia Leray pour les Express de Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nos Express du jour sont évidemment préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Stéphane Boutsock vient de nous parler de Steven Spielberg. Eh bien, il fait son entrée dans le monde aussi de la comédie musicale.
Oui, dans l'agenda de Spielberg, il y a, on le sait, le tournage d'Indiana Jones 5, sorti calé en 2020 avec entre autres Harrison Ford. Eh bien, autre gros projet pour le réalisateur, le remake de ce classique de 1962.
Ah ben il va falloir qu'il se lève tôt, hein, parce que West Side Story,
là.
Vas-y ma poule.
West Side Story, drame amoureux avec Natalie Wood et George Takei. Spielberg entend emporter une nouvelle jeunesse, toujours sur fond de rivalité entre gangs new-yorkais.
On a hâte quand même de voir. Oui. Hein, l'histoire d'amour du prince Harry et de Meghan Markle, je prononce bien son nom ?
Oui.
Ok. Bientôt adapté en téléfilm pour la télévision américaine.
C'est la chaîne Lifetime qui dévoile ce projet. Le téléfilm va couvrir toutes les périodes des futurs mariés. Leur rencontre, le début de la relation, l'annonce de leur fiançailles et surtout le mariage princier sera en mai prochain. La chaîne est en plein casting pour trouver les comédiens qui vont incarner Harry et Meghan.
Ils sont tellement charmants, c'est de là que
oui.
Je suis un côté un peu irrésistible. Alors, on passe aux auteurs de best-sellers qui vont se bousculer dans les librairies à partir de mars prochain.
Et c'est Tatiana de Ronay qui ouvre le bal. Elle va publier dès le 1er mars son nouveau roman « Sentinelle de la pluie », l'histoire d'une famille ébranlée par la mise à jour de ses secrets. Une semaine plus tard, le 7, Joël Dicker sortira la disparition de Stéphanie Mailer. 20 ans après un triple meurtre, une journaliste révèle que le coupable n'était en fait pas le bon. Ensuite, le 14 mars, retour au roman également de Philippe Claudel avec « L'archipel du chien », la vie d'une île bouleversée par l'échouage sur ses rives de trois cadavres de migrants. Et enfin, le 22 mars, David Fuenkinos publiera Vers la beauté ou l'étrange fascination d'un gardien de musée pour un tableau du peintre Modigliani.
Histoire extraordinaire.
C'est un beau programme. Hein.
Ah oui, bah tout ça est très intéressant. Alors, gardez votre agenda et votre stylo puisque Soprano sortira son nouvel album, lui, le 9 novembre 2018. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville, larme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde.
Le nom de ce nouvel album, c'est Phoenix. Attention, ce ne sera pas un retour aux sources avec plus de rap comme il le faisait avant, mais bien du chant après le succès colossal de l'Everest. 600 000 ventes et une tournée à guichet fermé. Soprano le dit lui-même, Phoenix, parce que dans la vie, on n'a pas de seconde chance, on en a des milliards. Rendez-vous donc le 9 novembre prochain, on a un peu de temps.
Maintenant, une nomination surprise en cette fin de Fashion Week. Eddie Slimane prend donc les rênes de la maison Céline.
Oui, le styliste français de 49 ans est nommé directeur de la création artistique et de l'image chez la maison de couture star du groupe LVMH. Eddie Slimane a déjà été responsable de la création chez Yves Saint Laurent et de la création homme chez Dior. Et donc, pour la première fois de son histoire, Céline abritera une collection masculine. On ne connaît pas encore son nom.
Merci beaucoup, Olivia Leray, pour ces express. Alors, nous passons maintenant à notre page télévisée qui va être copieuse. D'abord avec les audiences du week-end et ensuite avec les programmes que vous nous recommandons ce soir. En ce qui concerne les audiences, Isabelle Morini-Bosque avec Médiamétrie.
Eh ben c'est encore un excellent week-end pour le Polar. Vendredi, c'est le flic lyonnais Shérif qui arrive nettement en tête devant le grand blind test de TF1. 4 102 000 téléspectateurs contre 2 900 000. Et samedi, c'est Meurtres à Orléans, Inoxydable et Michel Bernier qui, avec près de 5 300 000 fidèles, devance le vendredi Tout est permis d'Arthur, 4 050 000, qui, comme son nom ne l'indique pas, était donc le samedi. Et quant à hier, c'est rare, guerre des films que remporte Dos au mur sur TF1. 4 200 000 curieux étaient sur la une et 3 900 000 devant Contagion sur la 2. Voilà.
Alors, notre soirée télévisée maintenant, on retrouve bien sûr la seconde partie des portraits des agriculteurs de L'Amour est dans le Pré, saison 13 sur M6.
Exactement, 7 nouveaux portraits de candidats au bonheur extrêmement variés. On a par exemple Dauphinois Jacques, un éleveur de vaches pudique, mais qui veut tout de même préciser qu'il a déjà un peu et bien vécu.
Après, j'ai connu des aventures.
Oui. C'est autre chose, quand même.
Jeune, aimante et tout.
Jeune.
Bah, des filles de 25 ans, 28.
Mon cochon.
Bah, c'est
t'as
pas...
quel âge ?
Il n'y a pas d'âge pour l'amour.
Quel âge t'as ?
30 ans.
32.
Non, un petit
40 et quelques.
48, 42, 49.
Et voilà.
C'est invraisemblable, ces conversations qu'elle a avec
eux.
Elle est tellement naturelle, moi, chaque
absolument.
Fois, je suis stupéfait.
Ah, ben, bah, puis ça les aide. Hein. Bah, il cherche une femme douce, car s'il aime les bovins, il déteste l'amour vache.
Très bien. Alors, et puis on signale Sam sur TF1 et le polar Unité 42
ah,
sur la 2.
Ah, ce polar belge est un bijou, ne loupez pas le second épisode incroyablement humain. J'ai pleuré. Voilà, bon, c'est tout.
Merci, voilà, on essuie cette larme. Et puis, bah, l'événement, c'est sur Canal+, ce soir, le démarrage de Baron Noir, saison 2, avec un camarade exemplaire, m'avez-vous dit ?
Oui, toujours exemplaire, un conseiller PS pris dans les affaires, il s'appelle Philippe Rigvert. Philippe Rigvert, Rigvert, bah, le plus simple, au bout de 2 ans, c'était de se faire rafraîchir la mémoire par camarade lui-même.
On dit Philippe Rigvert. Il y en a qui disent Rigvert, d'autres qui n'arrivent même pas à le dire, parce que c'est un nom du Nord, quoi, de Dunkerque, Philippe Rigvert. Voilà.
Décidément, le Nord, ça vous poursuit, alors vous qui êtes plutôt un homme du Sud ?
Moi, je suis plutôt un homme du Sud. Je suis né au Sud et je suis plutôt attiré par le soleil et par la Méditerranée. Et en même temps, j'adore aller dans le Nord. J'adore le Nord. Écoutez, c'est con. Il y en a qui ont fait des chansons, mais c'est vrai que les gens du Nord ont un cœur et ont un tempérament, une mentalité que j'adore, qui correspond à ce que j'aime dans la vie. C'est des gens, malgré le climat, malgré leurs difficultés, gardent un vrai sourire et une vraie joie de vivre. Voilà.
Et bien, lui qui garde la parole pour résumer ce qu'on a vu, ce qu'on va voir.
La fin de la saison 1, en ce qui me concerne, se termine mal puisque finalement il va terminer en prison. Accusé évidemment de magouille, la saison s'achève pratiquement sur cette prison du côté de Lille. Et la saison 2 s'ouvre sur la même prison, puisqu'on va commencer par suivre le Baron Noir qui sort de prison avec 2-3 conditions. La première, c'est une inéligibilité, le coût d'un procès et puis surtout un bracelet électronique qui le contraint à des horaires très compliqués. Donc il a vraiment des difficultés pour à nouveau faire de la politique. Mais comme c'est quelqu'un de pugnace qui a, comme moi, je crois un vrai tempérament de battant, il va quand même continuer à faire la politique, mais d'une autre façon.
Alors c'est toujours avec un petit bracelet à la
oui,
cheville.
Oui, absolument. Hein. C'est toujours aussi réaliste. Les partis politiques et les syndicats gardent leur vrai nom. C'est aussi complexe que dans la vie. L'histoire du 49.3, j'ai rien compris. Et c'est encore plus passionnant quand, au fil des épisodes, on aborde les problèmes de société comme la loi de santé. Ça a été écrit avant l'élection et même la montée en puissance d'Emmanuel Macron. Et Cadmirad l'avoue, il adore son personnage.
On dit oh là là, c'est un méchant, il est manipulateur et tout. C'est un homme politique en fait. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, mais ça n'empêche pas qu'il a une grande intégrité, une grande fidélité. Moi, je le défends vraiment, ce personnage, que je trouve qu'il est très vrai. C'est un type entier, quoi. Mais ses méthodes sont particulières, c'est tout. Il garde son téléphone collé à l'oreille, sa voiture, son volant à la main, parce que c'est un type très actif. Il dort pas beaucoup, comme un homme politique, quoi.
Est-ce que ça a changé votre façon de regarder les hommes politiques, surtout les hommes de l'ombre ?
Écoutez, moi, je continue de pas être très passionné par la politique, toujours pas. Par contre, c'est vrai que on voit de temps en temps des images prises un peu à la volée. Oui, je comprends à ce moment-là pourquoi il a cet air tourmenté. ou perturbé parce que juste avant, il a eu une discussion avec quelqu'un dans un couloir, parce qu'après, il va avoir une décision à prendre. C'est des types qui sont sur la sellette tout le temps. C'est vrai que je regarde plus les hommes politiques comme avant. Je veux bien l'admettre.
Il s'interroge aussi sur l'évolution des médias et l'interaction médias-politiques.
La multiplicité des médias, des réseaux sociaux, etc. fait en fait que tout le monde est journaliste aujourd'hui. C'est un peu ça le danger. Maintenant, les hommes politiques sont des manipulateurs. Ils passent leur temps à faire des petites phrases, des punchlines, des phrases assassines et tout. Et en même temps, on a l'impression que c'est un peu maîtrisé. Je pourrais pas être journaliste politique parce que c'est des malades mentaux en fait. Ils sont bien plus compliqués que les acteurs ou les artistes. Ils sont déjà très compliqués, je trouve. Non mais c'est vrai. Puis l'intimité intéresse énormément les gens. On adore voir François Hollande sur une plage avec son maillot de bain, quoi. Ce qui est délirant quand même. Moi, on m'a pas encore chopé en maillot de bain. Pour vous. Si on sait qu'on n'est pas paradé, on gagne, on fait du gainage. Moi qui ai mon petit ventre comme tous les hommes qui ont passé 50 ans, quand je me mets dans la glace de profil et que je dois ramasser un truc par terre, là, je vois un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en même temps, ça plaît aussi, donc tout va bien.
Et donc, bah oui, tout va bien. Hein. Il est incroyablement libre de parole.
Et avant la saison 1, il avait passé un bout d'essai et pour lui, c'est parfaitement normal.
Bah oui. Si on me demande des essais, je dis oui, ça correspond pas. Je dis, bah tant pis, c'était pas pour moi. Même si je serais extrêmement vexé, surtout si j'aime le projet. Quoi, c'est un examen en fait.
Et vous n'en êtes pas au stade de demander des essais quand on vous les, des essais quand on vous les propose pas?
Oui, je serais vraiment con quoi. Mais j'aurais pu, par exemple, quand Philippe Lioret m'a proposé le film Je vais bien, ne t'en fais pas. D'accord. Je faisais un père qui avait déjà 50 ans, j'en avais à peine 40. J'étais à deux doigts de dire, mais tu es sûr que je suis capable de faire ce genre de choses? Je crois pas que j'y arriverai. Moi je suis fou parfois. Bah j'ai bien fait de pas lui dire. Parce que si j'avais mis le doute, peut-être qu'il aurait dit, mais t'as raison, c'est vrai que t'es jeune. Vous vous rendez compte, j'avais pas encore d'enfant en plus quand j'ai tourné. Donc je savais pas ce que c'était que d'être père. Donc je pense que je suis aussi capable de dire à un mec, mais t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse un essai avant?
Et au fait, est-ce que le baron noir Philippe Prévert aurait pu bosser avec Emmanuel Macron?
Oui, mais de toute façon, le baron noir, il peut travailler avec n'importe qui, à part évidemment les gens des extrêmes, parce que c'est pas du tout son truc. Il est vraiment profondément socialiste, profondément de gauche, hein, a priori. Donc Macron étant quand même un homme de gauche, vient d'un gouvernement de gauche, oui, je pense qu'il pourrait, mais très vite, il le dérangerait peut-être aussi, parce que comme Rick Wart peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule et de dire ce qu'il pense, je sais pas si Macron accepterait, parce qu'il a beaucoup de personnalité, Rick Wart, je sais pas.
Alors, ce qui ne figure pas dans la série, en conclusion, c'est le phénomène anti-harcèlement et toutes les déclarations intempestives qui passent dans une sorte de lessiveuse.
Ça empêche un peu la parole, quoi. C'est-à-dire que les gens avant qui s'exprimaient comme moi n'osent plus s'exprimer maintenant. Parce qu'ils savent que quel que soit le propos, comme vous dites, il va être mis dans une machine à laver, ça va se retourner contre lui. Donc, c'est terrifiant, en fait, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et en même temps, c'est oublié aussi vite qu'une machine, en fait. Oui. Le lendemain, vous êtes déjà en train d'en faire une autre, une machine.
Tout à fait. Mais entre-temps, ça peut avoir fait des dégâts.
Bah là, en l'occurrence, sur l'histoire que vit Catherine Deneuve, notamment, c'est effectivement quelque chose qui la dépasse elle-même, quoi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'expliquer, parce que dès qu'on s'explique, après, c'est encore pire.
Voilà, c'était donc Cadmeyrade et le Baron Noir. On le retrouve ce soir sur Canal à 21h.
Oui, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je vais juste dire que Cad aura aussi une très grosse année cinéma. Oui. Et je vous parlais du Doudou à l'Alpe d'Huez la semaine dernière. Mm-hmm. Le film a reçu le prix du jury. Ça sortira le 20 juin avec Malik Bentala.
Et puis deux rendez-vous avec le Baron Noir aujourd'hui. Tout d'abord, à la bonne heure, Stéphane Bern reçoit François Morel et Anna Mouglalis. Et puis moi, j'aurai le plaisir de les recevoir tous les deux ce soir sur Canal Plus dans l'Info du Vrai à 20h15.
Oui, François Morel qui est une sorte de Mélenchon, si j'ose dire. Et la saison 3.
L'une des surprises. De cette
et la saison 3
saison.
Sera tournée en 2019 après le film avec Danny Boone.
On retrouve tout de suite Monique Younes. Vous nous emmenez au théâtre, Monique, de la Porte Saint-Martin, voir un classique, Les Jeux de l'amour et du hasard, de notre ami Marivaux, mise en scène par Catherine Yégel, avec notamment Clotilde M et Vincent Dedienne. Et vous m'avez dit que tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit un triomphe.
Oui, acteurs excellents, mise en scène enlevée, décors élégants quant au texte de Marivaux, indémodable. Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit de la pièce de Marivaux la plus joué en France et à l'étranger.
Vous nous rappelez l'histoire en quelques mots?
Une jeune fille, Sylvia, interprétée par Clotilde M, que son père veut marier à Dorante, le fils de son ami. Sylvia ne veut pas de ce mariage arrangé et elle a l'idée de proposer à son père de mettre à l'épreuve le promis, le stratagème consistant à se faire passer pour sa servante, Lisette.
Si je pouvais le voir, l'examiner un peu, sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrai la sienne.
C'est ça son orgueil infini, c'est qu'elle veut être choisie en suivante pour être sûre qu'il l'aime pour ce qu'elle est et pas pour sa condition. Elle ira jusqu'au bout pour qu'il lui demande sa main dans son déguisement de servante. Elle est très retors.
Et le père de Sylvia accepte de jouer le jeu ?
Oui, mais le problème, c'est que Dorante, le fiancé, se déguise lui aussi en valet.
Ah ben nous voilà bien, les choses deviennent très compliquées.
Compliquées et amusantes, c'est le principe du carnaval. Les maîtres se trouvent déguisés en valets et les valets en maîtres. Et c'est ainsi que Vincent de Dienne, qui joue Arlequin, le valet de Dorante, apparaît dans les habits de son maître.
C'est une pièce formidable, le jeu de l'amour et du hasard, parce que ça joue à jouer. C'est une pièce sur le théâtre aussi, c'est une pièce sur la comédie, sur le masque. Quand je me suis dit je vais jouer Arlequin, je me suis dit oulala, il faut se méfier parce qu'on en a tellement une image du clown, du guignol un peu, que je me suis dit il faut pas être drôle comme ça, il faut réussir à trouver une humanité dans la drôlerie qui soit pas celle du gag ou du guignol.
Alors Vincent de Dienne a le don de déclencher l'hilarité de la salle quoi qu'il fasse, et là il est irrésistible et pathétique à la fois, car il va tomber amoureux de celle qu'il croit être la jeune promise et qui est en fait la servante, ce qui lui pose problème car à un moment il faudra bien qu'il avoue à celle qu'il aime et qu'il croit être la maîtresse, mais qui ne l'est pas, il faudra bien, dis-je, qu'il lui annonce qu'il n'est pas celui qu'elle croit qu'il est et qu'il n'est pas.
Vous faites exprès de compliquer les choses, Amélie.
C'est le jeu de l'amour et du hasard qui est compliqué, Yves. La question est de savoir si un domestique a le droit de tomber amoureux de sa maîtresse, et si la maîtresse n'en est pas une, qu'est-ce que ça change ? Voilà un problème existentiel, toujours d'actualité, d'après Vincent de Dienne.
Ah bah oui, mais ça c'est un motif bouleversant ça. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux ? Qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît en quelqu'un ? Quel effet ça fait d'être reconnu par quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on met en place de mensonges, de travestissements, de mascarades pour être aimé, pour faire flamber l'amour ? Tout ça c'est génialement écrit là.
Accommodons-nous, cette demoiselle m'adore, elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet et que nonobstant son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons ?
Alors Marivaux, en bon cynique, hein, remet les choses en ordre à la fin de la pièce.
Oui, finalement, les maîtres restent entre eux et les valets entre eux. Les maîtres restent avec leur argent, leur pouvoir et les soucis qui vont avec. Et les valets restent avec la fantaisie, la danse et la soumission. Ils dansent aussi. On découvre un Vincent de Dienne, excellent danseur. Il revient à ses premières amours théâtrales qu'il a quittées 3 ans pour jouer seul en scène.
Je retrouve des sensations que j'avais oubliées depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je joue seul mon spectacle. Le fait de se faire surprendre, le fait d'essayer par des choses muettes, de changer des petites choses, des micro-choses en un regard. J'ai l'impression de refaire du tennis à Roland-Garros alors que je faisais du ping-pong depuis 3 ans avec la moitié de la table relevée.
Voilà, Vincent de Dienne, dans les jeux de l'amour et du hasard, il est avec Clotilde M. Et vraiment, cette pièce de théâtre ne serait rien sans la présence des autres personnages interprétés par des acteurs qui sont tous magnifiques. Laure Calamy en Lisette est succulente, on ne sait pas si on la voudrait plutôt comme servante ou comme maîtresse. Et puis Alain Pralon, Cyril Touvenin, Nicolas Maury, que vous aurez voir dans les Jeux de l'amour et du hasard au Théâtre de la Porte Saint-Martin, en famille, en valet ou en seigneur.
Ça tombe bien, j'aime beaucoup Marivaux, c'est le nom d'un de mes chats. Donc, allez, voilà. On se retrouve dans un instant. Mais oui, il y a un chat qui s'appelle Marivaux, c'est comme ça. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mademoiselle Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour, oula.
Nous parlons comédie musicale maintenant. Bah oui, et hop, au rapport.
Oui, c'est ça.
L'Opéra de Toulon, l'Opéra de Toulon se donne des airs de Broadway ces jours-ci, oui. Avec Wonderful Town. C'est une comédie musicale de Leonard Bernstein.
Leonard Bernstein, dont on fête cette année le centenaire de la naissance. L'Opéra de Toulon a souhaité marquer le coup avec la programmation de cette œuvre méconnue et encore jamais mise en scène en France. Leonard Bernstein, on connaît surtout West Side Story bien sûr, son chef-d'œuvre de 1957. Cette comédie musicale eut un tel retentissement qu'elle a un petit peu éclipsé Wonderful Town, mais cette dernière reste remarquable, vous l'avez déjà entendu, hein, notamment parce qu'elle a servi d'esquisse, de prélude à West Side Story. Bernstein, chef et compositeur américain aussi éclectique qu'énergique, l'a créé 4 ans plus tôt. C'est une œuvre typique de Broadway, inspirée d'un film des années 40. L'histoire est simple, les deux sœurs Sherwood quittent leur Ohio natal pour pour tenter leur chance à New York. Elles veulent être artistes. C'est le cliché du rêve américain. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Olivier Benezech a initié à l'Opéra de Toulon un cycle de comédie musicale il y a un petit peu moins de 10 ans. Il est le metteur en scène de ce Wonderful Town.
Ce qui a fait que c'est devenu une pépite, c'est qu'il y a la musique de Leonard Bernstein. Et que ça, c'est une sublimité absolue. Une musique explosive. C'est New York. C'est une ville qui dort jamais. Il y a des voitures de pompiers tout le temps, des sirènes. Et il a rajouté des rythmes cubains, parce qu'il y a une scène hilarante où il y a une dizaine de marins cubains qui arrivent à Manhattan et qui s'amusent avec les filles. Comme dans West Side Story, il y a des mambos, etc. Bernstein s'amuse avec ces rythmes tropicaux. Du coup, ça donne une couleur très généreuse et très rythmique à la danse.
Yeah, you got it. Okay, fellas, that's enough. Now tell me, what do you think of the USA, NRA, TVA? What do you think of our Mother's Day? What do you think of the...
Et en cela, on peut dire que Bernstein est 100% new-yorkais.
C'est le vrai New-Yorkais. Je crois que c'est l'essence même de New York, dans cet esprit trépidant, comique, mais aussi humaniste. Parce que Bernstein n'est pas seulement un compositeur, c'est aussi un chef d'orchestre, évidemment, mais aussi, on a tendance à l'oublier en France, un grand pédagogue. Il a fait beaucoup de concerts où il initiait, pas forcément des classes favorisées. Il a vraiment fait un métier complet de musicien humaniste.
Wonderful Town, à sa création en 1953, a quand même remporté 5 Tony Awards. Ce sont un petit peu nos Molières à nous. Mm-hmm. Cela dit, aujourd'hui, l'histoire censée se dérouler en 1935 pourrait sembler un petit peu vieillotte. Alors Olivier Benezech a tenu à lui redonner du souffle avec une mise en scène très actuelle, aux accents hispanisants et afro-américains. Il nous plonge dans une ambiance street dance, histoire d'incarner au mieux le melting pot new-yorkais. On retrouve sur scène aussi une habituée des musicales, Jasmine Roy, ancienne prof de la Star Academy, également pour ceux qui s'en souviennent. Et puis à la baguette, un chef new-yorkais, on ne pouvait pas rêver mieux, Larry Blank. Il connaît par cœur cette culture, ses finesses et ses traits d'humour. C'est idéal pour l'orchestre et le chœur de l'Opéra de Toulon embarqué dans cette aventure. À partir de vendredi 26, ce vendredi, et jusqu'au mardi 30 janvier, on va donc parler américain à Toulon. Wonderful Town est en anglais, mais surtitré. Il reste peu de place, il faut faire vite. Prix des places donc 5 à 72 euros. Et si vous le loupez d'ailleurs, sont prévus un DVD et une diffusion prochaine sur France 3. Faudra bien guetter votre programme télé.
Extraordinaire, n'est-ce avec effet musical. Dans un instant, on se dit au revoir avec toute l'équipe. A tout de suite et on accueille Julien Courbet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
On a passé un bon moment.
Oh, il me semble.
Excellent.
Oui.
Voilà, enfin. Je crois qu'il est temps d'accueillir Julien Courbet.
Oui, la réponse.
Excusez-moi, vous étiez. Ah, pardon, non, la réponse. Excusez-moi, Julien, j'ai fait la.
Vous étiez en train de faire quoi? Parce que là, on entend un blanc, on entend quelqu'un qui se rhabille, on entend un homme qui dit à une femme, on a passé un bon moment. C'était sympa. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe pendant les pubs?
Non, non, c'est moi qui disais, je crois qu'on a passé un moment. Je m'adressais à ce moment-là à Stéphane Boutsock.
Et parce qu'en plus, maintenant, d'accord.
Alors, vous n'étiez pas obligé de publier notre vie privée.
Tout à fait le droit de faire un coming out en plein direct.
Quel est le nom du journal qui a publié l'affaire des Paragon Papers?
C'est le Washington Post.
Yes. Ah bah voilà.
Bon.
Voilà, c'est fait. Bon, maintenant, le Washington Post, c'est à vous de vous débrouiller.
Eh bien, écoutez, avec Washington Post, dites-donc, ça ne va pas être facile. Hein. Surtout quand j'ai en face de moi Hervé Pouchol, vous voyez qu'entre Hervé Pouchol et Washington Post, il y a quand même un sacré monde.
C'est un petit peu le Dustin Hoffman de la radio.
Effectivement. Merci beaucoup. Et on va démarrer par un cas extraordinaire. Bonne journée, mon
Bonne journée.